avec Cara à Japan Expo, 10e anniversaire, bonjour.
Bonjour.
Sur le stand de Soleil pour la sortie du 2e tome de Le Bleu du Ciel. L'aventure continue ou pas exactement, puisque le prince, enfin, dans presque tout le 2e tome, c'est un flashback.
Voilà. Oui, effectivement, c'est un flashback. Donc c'est quelque chose que j'avais un petit peu peur en fait de faire, en me disant, est-ce que faire un long flashback qui prend quand même plus de la moitié de l'album, c'est pas quelque chose de gonflé, de risqué. En fait, l'astuce entre guillemets, c'était surtout de se concentrer vraiment sur le scénario, de ne pas traiter ça vraiment comme un flashback, de faire intervenir de temps en temps des monologues de l'héroïne qui commentent un peu l'action, comme j'ai l'habitude de le faire, aussi de faire en sorte que bon, il y ait de l'action. Vraiment traiter ça vraiment comme un récit parallèle. Et peut-être aussi ne pas essayer de trop séparer les deux époques, puisqu'on fait quand même un bond en arrière de 2000 ans. Donc c'était surtout le risque, en fait, vraiment de faire deux albums en un, d'une certaine façon. Et d'après les premières réactions que j'ai eues autour de moi, bon, apparemment, ça passe très bien. Les seules choses, c'est qu'on me dit, oui, on voulait que l'histoire continue. Et en fait, on a un retour en arrière. Mais là encore, par rapport au volume 3, où il y a effectivement là aussi pas mal de flashbacks dans le volume 3, on va s'apercevoir que ce sont les morceaux d'un puzzle qui s'imbrique depuis plusieurs milliers d'années, qui va trouver donc sa finalité, donc vraiment dans la scène finale de l'épisode 3, donc du volume 3. Et là, normalement, donc on comprendra qu'effectivement tous les flashbacks, toutes ces informations que nous avons eues sur les différents personnages font que, une fois imbriqué, le puzzle sera normalement complet.
Du flashback particulièrement intéressant parce que énormément d'informations. On comprend mieux en plus le détournement de l'histoire avec un grand H, la vision de Lilith, Marie-Madeleine, Jésus, etc.
Oui, alors c'est un album qui est beaucoup plus dense que le premier, effectivement. Très riche en informations, mais le but aussi était d'être le plus accessible possible. Savoir distiller suffisamment d'informations sans être rébarbatif, donc être accessible, utiliser des termes simples, utiliser aussi la culture générale du lecteur, donc il connaît quand même, ne serait-ce que de par sa culture générale et populaire, donc le personnage même de Jésus. On connaît la ville même de Jérusalem, le temple d'Hérode, que l'on a vu dans plus ou moins dans les livres d'histoire ou dans des reconstitutions, dans des films, des jeux vidéo d'ailleurs. Jouer aussi sur certains événements liés à la vie de Jésus, ses derniers jours, ses dernières heures, évidemment. Jouer sur, évidemment, la trahison de Judas. Jouer sur les toutes dernières heures de Jésus sur la croix. Jouer sur certaines répliques qu'il a eues, justement, que j'ai légèrement modifiées. Le but n'est pas de faire une espèce de contre-lecture, mais plutôt une espèce de réactualisation, de réinterprétation, pas peut-être plus moderne, mais plus humaine du personnage, tout en ne lui retirant pas son côté divin, son côté homme formidable, homme entre guillemets de miracle d'une certaine façon, mais en lui donnant un côté presque, pardonnez-moi le terme, plus attachant, plus humain, plus proche de nous. Tout simplement, plus proche de nous. Et donc avec cette réinterprétation toujours respectueuse, même parfois très écartée, ne serait-ce que la mort de Judas, bon je ne spoile pas, mais la mort de Judas qui est très différente de la version de la Bible, la résurrection aussi de Jésus qui est très différente, mais là aussi le fait que j'ai joué énormément aussi sur la documentation, le fait que j'ai joué beaucoup sur l'architecture, sur le gigantisme, sur le côté vraiment péplum et documenté de la chose, qui fait que justement ça donne un petit côté pas véridique, mais comment dirais-je, pour citer une phrase de John Ford, si la légende est belle, filmez la légende. Donc en gros, il y avait cette légende, donc cette fameuse légende de Jésus, même si historiquement c'est un personnage qui a véritablement existé, c'est un fait avéré et prouvé. Donc à partir de là, j'ai dessiné donc cette légende en y apportant vraiment un côté péplum des années 60, espèce de gigantisme. Et c'est vrai que ce côté bigger than life, hein, comme on dit dans le cinéma, a fait que peut-être que ça apportait un petit peu plus de véracité, le fait aussi que je vois au niveau des costumes, des architectures, de certaines coutumes. Petite anecdote par exemple, à un moment, Jérusalem comportait 3 enceintes successives pour protéger la ville. Et à un moment, j'étais vraiment très embêté parce que je me suis inspiré de pas mal de documentations montrant Jérusalem avec ses 3 enceintes. Or, je ne savais pas si à l'époque de Jésus, ces 3 enceintes étaient construites, s'il n'y en avait que 1, 2 ou 3. Et en fait, le fait d'étudier tout simplement le rite même de la crucifixion m'a donné un indice crucial, à savoir que toutes les crucifixions sont faites à l'extérieur de la ville. Or, le mont Golgotha se trouve à l'intérieur de la dernière enceinte, la troisième, en fait, enfin la troisième en partant de l'intérieur, je parle, Donc forcément, cette troisième enceinte ne pouvait exister à l'époque de Jésus, sinon la crucifixion se faisait à l'intérieur de la ville, donc ça ne marchait pas. Là, ce genre de petite anecdote que je viens de conter n'est qu'un détail par rapport à beaucoup de documentation que j'ai pris au niveau architectural, au niveau peut-être pas du mode de vie, n'exagérons pas, mais par exemple des habits et autres. Le but étant de faire une reconstitution, non pas 100% fidèle, parce que je montre la reconstitution du temple d'Hérode à un historien, il me dira « ouais ». Bon, si je montre une reconstitution de la ville, il va me dire « ouais, un peu abusé quand même », mais en même temps, il y a des moments, il y a des choses véridiques. Par exemple, il y a un moment où on voit un hippodrome, un gigantesque hippodrome, qui pouvait contenir, je crois, jusqu'à 20 000 spectateurs. Bon, cet hippodrome a véritablement existé. Le temple d'Hérode, évidemment, a existé. On voit à un moment les trois tours du palais d'Hérode qu'on voit donc dans mon album, elles ont véritablement, enfin en tout cas historiquement et archéologiquement, elles ont existé. Donc voilà, mais c'est ce mélange justement entre fantaisie et véracité historique, cette espèce d'équilibre qui ne donne pas peut-être un côté 100% réel, mais un côté peut-être crédible, mais surtout humain et attachant.
Ça vous a demandé beaucoup de travail, justement, toute cette recherche et à finaliser. Après, on parlait l'année dernière d'un gros travail sur l'ordinateur, ça vous a gagné un petit peu du temps sur les modélisations 3D, mais c'est quand même ultra fouillé. Il y a plein de détails sur l'architecture, justement. Si on passe le premier plan des personnages, derrière, vous avez dû passer un temps monstrueux dessus.
En fait, c'est pas que c'est compliqué, c'est ce que je dis tout le temps, c'est pas que c'est compliqué, c'est juste que c'est très long à faire, c'est tout. Effectivement, la modélisation 3D de certains décors, même de manière simple, m'aide pas mal déjà pour mettre en place mes perspectives ou réorganiser certains décors sous différents angles, évidemment, et faire aussi des perspectives justes. Mais c'est vrai que la mise en place, il me faut presque autant de temps pour faire une mise en place de mes décors en 3D et de ma mise en scène que pour l'exécution de la planche en elle-même. Mais simplement, c'est quelque chose qui me fait quand même gagner énormément de temps parce que, justement, il y a des choses, je peux le faire à la main. Il y a beaucoup de choses que je peux faire à la main. Mais le problème, c'est que l'album, bon, on y sera encore, quoi. C'est pas possible. Donc, au bout d'un moment, soit je prends des assistants, mais j'ai pas les moyens. Soit, bon, je simplifie, mais c'était pas le but de l'opération. Le but, justement, était d'être le plus près possible du détail. Vraiment, le temple d'Hérode, je l'ai reconstitué. Du moins, l'aspect extérieur du temple d'Hérode, je l'ai reconstitué vraiment le plus fidèlement possible. Il y a même des piscines aux abords du temple qui sont à l'endroit où on les a véritablement retrouvées. Bon, j'ai rajouté des petits bâtiments autour juste pour habiller un petit peu. Là, c'est mon côté cinématographique. Je me suis aussi un petit peu pris un peu de documentation sur les habitations même. J'ai rajouté des jardins suspendus parce que les toits des habitations de Jérusalem étaient tout plats. Donc graphiquement parlant, c'était plat en fait. Donc j'ai rajouté des jardins suspendus. Peut-être qu'il n'y en avait pas, mais architecturalement, ça se tient. Et je pars toujours du principe que, c'est-à-dire de la diversité dans l'unité, de l'unité dans la diversité. Je suis sûr que par exemple, même encore aujourd'hui, les villes ne sont pas toutes du même tonneau. Ok, il y a des villes, par exemple, bon, on se promène, puis d'un seul coup, il y a un bâtiment qui est plus bizarre ou qui n'a rien à faire parmi les autres. Il suffit de se promener à Beaubourg, par exemple, cette espèce de grand bâtiment énorme au milieu des bâtiments haussmanniens. On se demande ce qu'il fout là, cinématographiquement et artistiquement. Il y a faute de goût, forcément. Et dans les films, on essaie de faire des choses homogènes. Dans les BD, pareil. Mais justement, je trouve que c'est plus intéressant de faire un petit peu de bordel là-dedans. Donc, je suis sûr qu'elle est même à l'époque de Jérusalem, il y avait toujours des architectes peut-être plus originaux que d'autres. Il y avait des gens qui s'habillaient peut-être pas forcément comme les autres. Donc voilà. Donc, c'est cette espèce d'unité dans la diversité et la diversité dans l'unité qui donne aussi ce côté humain, je pense, et véridique, pas forcément historiquement juste, mais qui sonne juste. Tout simplement à ma reconstitution, enfin du moins j'espère.
Une histoire qui éveille les consciences aussi, il y a, vous disiez, des monologues, il y a aussi beaucoup de réflexions, vous interpellez le lecteur en permanence, ça marche? Les gens, quand ils sont en dédicace, ils vous en reparlent de ça?
Alors oui non, ça dépend, parce que tous les lecteurs sont très différents, d'autres s'accrochent à l'aspect graphique, d'autres s'accrochent au scénario, mais c'est vrai qu'il y a quelques remarques qui reviennent relativement souvent, dans le sens où par exemple le méchant démon, enfin celui qui veut éradiquer l'humanité, moi on m'a dit souvent Chiara, t'es sûr que c'est lui le méchant de l'histoire? Je dis oui, pourquoi? Elle me fait ses arguments se tiennent quand même. Je fais oui, c'est ça le problème, c'est que quelque part il a raison, et ça c'est vraiment c'est pas un souci, c'est que on revient toujours un petit peu dans mes thèmes de prédilection, à savoir qu'il n'y a pas vraiment de méchant, il n'y a pas vraiment de gentil. Tout le monde a raison, tout le monde a tort, tout le monde défend son steak. Alors évidemment, le fait que celui-ci veuille éradiquer l'humanité fait que, évidemment, ça fait lui naturellement le méchant, puisque nous sommes naturellement du côté des humains. Mais en même temps, il nous donne une leçon de morale qui fait que, il n'a pas tout à fait tort non plus de nous en vouloir. Et encore, dans le volume 3, il va exposer des arguments supplémentaires qui font que il va y enfoncer définitivement le clou en disant bon voilà de quoi moi je vous accuse, voilà de quoi j'accuse les autres. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Et là, à partir de là, on est coincé, on est au pied du mur, on se dit mince, mais mince, il a raison quelque part. Donc, on en revient donc toujours à des conflits d'intérêts. De même, la réflexion sur la religion. Il y a des paradoxes dans les idées même de religion. La religion nous donne toujours la force d'aller plus loin quelque part dans l'avancement des civilisations, mais les civilisations deviennent de plus en plus évoluées et démontrent scientifiquement que le surnaturel n'est que du naturel encore non expliqué. Donc à partir de là, quelle place reste-t-il à sa spiritualité? Vous ne voyez pas le vent, mais vous savez qu'il existe. Vous ne voyez pas Dieu, ça ne vous empêche pas d'y croire. À partir de là, bon, je pense qu'on se dirige vers une société, peut-être en Occident, d'agnostique, d'une certaine façon, où les gens vont se poser la question. Et certains se diront, bon sang, mais oui, peut-être que scientifiquement, tout me porte à croire que, hélas, Dieu n'existe pas. Mais en même temps, on y croit, on veut y croire, parce que un monde sans Dieu, un monde sans spiritualité, bon sang, ce serait sordide, ce serait trop triste. Ça voudrait dire vraiment que nous sommes dus qu'au hasard, qu'il n'y a pas vraiment de but divin, ou même à notre vie. Donc j'essaye un petit peu, peut-être pas apporter de l'espoir, mais peut-être du recul. Enfin, c'est très difficile à exprimer pour ma part, parce que il y a plusieurs pistes de réflexion que je lance. J'ai pas la réponse à toutes ces grandes questions. J'ai que 36 ans, je suis un jeuneau, et je pense que je les aurai jamais, ces grandes réponses à ces grandes questions. Mais ça m'empêche pas de les poser, ou de me les poser, de les poser aux gens. Dans ce cas-là, alors, est-ce qu'ils vont trouver des réponses? Je ne sais pas. On n'arrête pas de dire que le bonheur n'est pas un état, mais un chemin. Bon, en même temps, vivre avec un GPS toute sa vie, bof. Mais ça n'empêche pas que ça peut donner un élan, ça peut donner un espoir. Là encore, à ces questions-là, je vais répondre dans le volume 3. Je vais donner une piste de réflexion à ce niveau-là. Et c'est vrai que là, les gens, là encore, vont se dire, bon sang, c'est peut-être ça, finalement, que... Et c'est pas non plus être contraire à certaines... certains préceptes donnés par l'Église. J'ai lu un petit peu certains... ça peut paraître idiot, mais par exemple, en ce moment, dans certaines églises, on trouve des dépliants sur les grandes questions que se posent certains croyants. Pourquoi le malheur? Pourquoi Dieu? Pourquoi la misère? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Et en fait, donc je prends tout ça, j'en fais une espèce d'amalgame et je vais y répondre, en fait. Pourquoi? Et à partir de là, ce sera là encore à vous, je vous donne encore le choix de vous faire justement votre opinion. Comme dans le volume 2, bon, justement, Jésus donne, entre guillemets, le choix, quelque part. Il dit, voilà, c'est vous faites ce que vous voulez, mais moi, en attendant, nous croyons toujours en vous, quelque part. Si en retour, vous voulez croire en nous, bah c'est sympa, c'est bien. Mais nous, en tout cas, on vous laisse pas tomber, quelque part.
Le troisième tome est prévu pour quand?
On l'espère pour le second semestre 2010. C'est actuellement en cours. Ce sera pas forcément un tome plus complexe que les deux autres, mais c'est un tome où il va falloir résoudre environ 95% des énigmes. Il restera 5% d'énigmes, bon, pas franchement résolues, mais de portes ouvertes. Peut-être pas pour un éventuel quatrième tome, mais disons que ça laisse un petit peu de rêve, un petit peu à la fin. Ça passe le relais au lecteur en disant « Allez, à votre tour d'imaginer un petit peu ce qui va suivre. » Mais 95% des réponses, je rassure tout de suite, seront données et bien données. Il n'y aura pas d'ambiguïté, voilà.
On vous retrouvera sur d'autres séries entre-temps?
Alors normalement après, alors entre-temps non. En attendant, là par contre je suis en train de faire des études pour une autre bande dessinée qui sera un exercice de style manga, qui sera peut-être donc au format franco-belge. Vous pouvez en voir quelques essais donc sur mon blog. Donc ce sera un exercice de style effectivement donc manga, avec des gros yeux, des oreilles de chat, enfin tout ce qui fait le charme de, n'est-ce pas, de... d'une BD, une bonne BD de tout fan de Japanime, n'est-ce pas? Mais ça sera donc en grand format ou petit format cartonné, couleur, donc franco-belge, voilà. On est en train d'y réfléchir. Peut-être que là, par contre, voire même, il est très fortement probable que je ne m'occupe pas du scénario. Cette fois, je passe le relais à un scénariste tiers. Je ne peux pas vous en dire plus, les négociations sont en cours. Mais voilà, donc sûr et certain, ce sera un exercice de style manga. Hein, voilà, ça c'est quasiment sûr. Enfin sûr, c'est ce qu'on a envie de faire. Et à partir de là, ben, on verra bien. Pour l'instant, les réactions que j'ai eues sur mon blog ou sur d'autres sites où j'ai exposé mes dessins sont plutôt positives, voire même très positives, puisqu'il s'agit avant tout de faire une œuvre jeunesse et grand public. Et pour l'instant, les premières réactions jeunesse ont plutôt été bonnes.
Quelque chose à rajouter?
Disons qu'il y a un sujet moi qui me revient souvent à cœur et dont on me pose souvent la question. C'est ce qu'on appelle le mélange des genres. C'est vrai, quand on voit la couverture de mes albums, on peut penser que ce sont des œuvres de fantasy, entre guillemets, académiques. Mais, et vous le savez, puisque vous avez lu le bouquin, ce n'est pas franchement académique. Le contexte est peut-être académique, le graphisme, bon, c'est du fameux cerné noir avec de la couleur dedans, c'est sûr, mais le propos est avant tout introspectif, voire même, entre guillemets, philosophique. Et c'est quelque chose qui, entre guillemets, dans le manga est totalement accepté. On peut croiser les genres, on peut faire quelque chose de très philosophique, avec quelque chose qui a de l'action, par exemple GTO, pour ne citer que celui-là, GTO, c'est de l'humour très trash, c'est quelquefois même un peu vulgaire, c'est parfois un peu con-con, mais en même temps, c'est une très très fine analyse du système éducatif nippon. Il y a des passages psychologiques extrêmement intenses, pas freudiennes, on va pas dire ça, mais on va très loin dans la psychiatrie, dans la psychologie des personnages. Et hélas, en Occident, on en est encore une fois à cataloguer les œuvres. Une œuvre intellectuelle est forcément élitiste, voire ennuyeuse pour certains. Une œuvre d'action est forcément décérébrée, n'a pas de scénario, avec des personnages caricaturaux. Mais au Japon, on peut faire les deux, on peut croiser les genres. Moi, c'est ce que j'essaie de faire avec mes BD. Et c'est vrai que le problème, c'est doit-on forcément renoncer à un public pour un autre ? Et inversement, je pense que le défi justement c'est de toucher tous ces publics-là en leur disant « Regardez, nous avons fait une BD où il y en a entre guillemets pour tout le monde. Il y a de la réflexion, il y a de l'action, le tout reste accessible. Il y a plusieurs niveaux de lecture dans mes BD. Donc n'hésitez pas, allez-y. Si vous aimez la BD entre guillemets intellectuelle, bah essayez, vous verrez bien. Si vous aimez la BD d'action, il y en a aussi dans ma BD. Le truc est que j'essaie de faire quelque chose de plus cohérent possible. Là encore, d'après les réactions que j'ai eues, j'ai apparemment, entre guillemets, réussi. C'est pas moi qui le dis, ce sont les autres. Donc, ne vous limitez pas, tout simplement. Ne cataloguez pas vite une œuvre, tout simplement. Et voyez, par exemple, Sky Doll, c'est de la fantasy, mais il y a beaucoup d'émotions dedans. Universal War One aussi, pareil. Il y a des personnages qui sont très forts. Psychologiquement, c'est assez fouillé. Il y a de l'action, il y a du suspense. Donc oui, on peut faire des récits d'introspection, mais qui sont fun à lire. Oui, on peut faire des choses complètement barrées, fun, rigolotes, mais avec un message à la fin qui nous apprend quelque chose. On peut faire ce croisement de genre. Tout le monde l'a accepté dans le manga, il faut l'accepter aussi dans la bande dessinée occidentale. Voilà.
Merci beaucoup. Juste pour terminer, l'adresse de votre blog.
Alors, l'adresse du blog, c'est http://carafactory, donc carafactory, avec un K, .blogspot.com. Blogspot, que je remercie de faire des blogs aussi faciles d'accès. Moi, j'ai créé mon blog en un quart d'heure, et franchement, même moi qui n'y connais que dalle en code HTML et autres, j'ai réussi à bidouiller un blog à peu près valable. Donc franchement, ça fait plaisir.
Merci
voilà.
Beaucoup.
De rien.